Nous sommes très heureux de vous accueillir au nom de la plateforme d'observation des projets et des stratégies urbaines, programme du ministère de la Transition écologique et solidaire et ministère de la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en France. On part pour une séquence en réalité que nous avons intitulée « Interdépendance et coopération dans les territoires métropolitains ». Quatre intervenants sur le plateau. Je vous présente Madame le maire Swan El Ouardini, maire de Dakar. On est très heureux de vous accueillir. Marie-Christine Jaillet, vice-présidente de l'Université de Toulouse, directrice de recherche au CNRS. Xavier Desjardins, professeur à Sorbonne Université Paris-France. Et Édouard Bouda, vous êtes directeur de l'Agence de développement économique urbain Awaga au Burkina Faso. Au cours de cette séquence, on voudrait tout d'abord vous poser et revenir sur un enjeu, Marie-Christine Jaillet, qui est celui de la plateforme d'observation des projets et des stratégies urbaines. C'est un programme qui a de très nombreux objectifs, qui se déploie en réalité sur plusieurs programmes, actions de recherche, qui se caractérise par un enjeu, celui du dialogue acteur-chercheur. Mais est-ce que vous pouvez nous rappeler finalement les principaux enjeux et objectifs associés à ce programme de recherche.
Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Alors, ce programme est un programme effectivement de recherche un peu particulier qui porte sur 15 métropoles françaises. On y reviendra parce que ces métropoles ne sont pas évidemment Paris-Londres, c'est des villes moyennes, j'y reviendrai. Et la caractéristique de ce programme, c'est d'associer sur chacune des grandes villes sur lesquelles il se déploie une équipe de chercheurs et des acteurs qui sont à la fois les grands élus de ces métropoles et puis les professionnels de l'urbain, responsables des services de ces grandes intercommunalités, mais aussi agences d'urbanisme ou autres professionnels. L'idée développée par ce programme, c'est de faire le pari que les chercheurs, dans un dialogue, on pourrait dire à parité, à égalité avec les élus et les professionnels, peuvent éclairer aujourd'hui un certain nombre des grands enjeux auxquels ces villes sont confrontées dans une période où elles sont en mutation et où elles ont à gérer un changement de modèle.
Alors justement, vous évoquiez que les différents modèles de villes et les enjeux de la métropolisation, on est face à un monde globalisé. On a connu les travaux notamment de Saskia Sassen qui revient sur les global cities et les villes globales. Mais de quoi parle-t-on exactement lorsqu'on évoque l'enjeu de la métropole finalement en France, mais également aussi dans le reste du monde, puisque vous n'êtes pas sans savoir que deux lois ont été relativement importantes sur le territoire français, la loi Maptane et la loi L'Autre, qui incarnent la question de la métropole et de sa structuration, mais on est très loin en réalité de l'enjeu de la métropolisation à l'échelle mondiale, ou en tout cas d'interprétation qu'on pourrait avoir de cette notion à l'échelle mondiale.
Alors ce programme ne travaille pas sur Paris. On pourrait effectivement travailler sur la transformation de Paris et comparer Paris à Londres, Lagos, Mexico. On n'est pas sur cette taille de ville-là. À l'échelle mondiale, on est sur des villes qui seraient des villes moyennes, voire de petites villes. Alors si je cite ces villes-là, je peux dire Lyon, Marseille, Toulouse, Strasbourg, Lille. C'est ces villes-là que nous regardons. Et pourquoi il est important de les regarder ? Parce qu'à l'échelle du territoire français, elles jouent un rôle tout à fait particulier. D'abord, elles maillent évidemment le territoire. Aujourd'hui, les gouvernements et le gouvernement français pensent que le développement économique et se jouera là, au fond, qu'elles peuvent être le moteur du développement et d'un développement qui repose sur les capacités d'innovation, les capacités de recherche, les capacités de recherche-développement. Et par ailleurs, elles assurent un rôle fondamental de service. Elles apportent des services et à l'ensemble des populations sur un territoire plutôt vaste. Alors, enseignement supérieur, santé, c'est-à-dire des services qualifiés qu'on ne trouve pas sur l'ensemble du territoire, mais qu'on trouve dans ces métropoles. Une remarque, c'est des villes qui, dans les politiques d'aménagement du territoire en France, dans les années 60, avaient été des métropoles d'équilibre, c'est-à-dire vouées à rééquilibrer le développement sur un territoire national marqué par une forte centralisation sur l'Île-de-France et sur Paris. Aujourd'hui, c'est des villes qui ont bénéficié d'un statut par une loi, la loi MAPTAM, donc statut de métropole, et qui bénéficient de ce fait d'un plus grand nombre de compétences, c'est-à-dire on a renforcé leur pouvoir pour leur donner une capacité d'action plus grande, vous le savez, dans un pays marqué par une forte centralisation, mais où depuis le début des années 80, on connaît une phase de décentralisation et où l'État a au fond donné aux pouvoirs locaux, en particulier aux municipalités, aux intercommunalités, aux départements et aux régions aussi, mais beaucoup aux municipalités, aux intercommunalités, davantage de pouvoir et de capacité d'action.
Alors, sur ce programme national qui comprend 370 chercheurs, 70 établissements d'enseignement supérieur et de recherche, vous arpentez en réalité la France et à la découverte en réalité de l'ensemble de ces métropoles, enfin en tout cas 15 sur les 22 de la loi MAPTAN et la loi NOTRe que vous évoquiez. En réalité, vous découvrez un certain nombre de défis associés à ces villes. Ils sont nombreux, défis environnementaux, l'hospitalité, la démocratie. Quels sont finalement les points saillants, les marqueurs, les déterminants en réalité des métropoles ? À quels défis doivent-elles finalement quels sont les défis que les métropoles doivent relever aujourd'hui et puis aussi peut-être demain ?
Alors, elles sont aujourd'hui dans une phase de transition et elles doivent inventer au fond un nouveau modèle de développement avec, j'allais dire, quatre enjeux principaux. Un premier, c'est de faire face, évidemment, au réchauffement climatique. Donc, faire face au réchauffement climatique, ça veut dire trouver un modèle d'urbanisation nouveau, moins étalé, éventuellement plus dense, avec aussi une question adjacente, c'est comment les habitants acceptent de transformer, modifier leurs pratiques, leur mode de vie. Deuxième enjeu, elles ont à être plus économes des ressources qu'elles mobilisent. Pour des raisons évidemment écologiques, de préservation aussi des ressources planétaires. Donc ça veut dire aussi réfléchir par exemple à des circuits courts. On peut y revenir sur l'alimentation, essayer de travailler précisément avec leur environnement pour que une partie de l'alimentation nécessaire aux populations urbaines provienne plutôt de leur environnement. Elles ont affaire à des enjeux de confrontation à des inégalités qui s'accroissent parce que ces métropoles qui jouent un rôle effectivement important, qui attirent aussi des emplois qualifiés, donc des emplois plutôt supérieurs, de cadres supérieurs, elles attirent aussi des populations au chômage qui pensent trouver davantage d'opportunités. Donc ce qu'on observe dans beaucoup de ces métropoles, c'est une aggravation des inégalités sociales avec des enjeux qui sont ceux du droit au logement qui en France aujourd'hui est une question vive et puis avec la nécessité de rester des métropoles, des villes hospitalières parce qu'elles sont des villes aussi qui attirent des populations migrantes. L'effet de la mondialisation, c'est pas simplement la circulation des marchandises, c'est aussi la circulation des hommes, des femmes. Et on voit bien que ces métropoles attirent effectivement ces flux-là. Et donc, comment ces métropoles s'organisent pour accueillir, on connaît en France aujourd'hui, de l'habitat informel, des formes de bidonvilles, alors qui n'ont peut-être rien à voir évidemment avec ce que sont les bidonvilles dans un certain nombre de villes du Sud, mais néanmoins ces enjeux-là sont importants. Et puis, dernier enjeu très compliqué, c'est celui du défi démocratique, parce qu'on voit bien que dans des sociétés françaises où le niveau de formation s'est accru, il y a un désir très fort des populations à participer, au fond, à la production de leur cadre de vie. Pas simplement être consulté, vraiment participer. Et donc, cette demande de participation, cette volonté d'être associé, au fond, à la fabrique de la ville, suppose qu'on réfléchisse à d'autres modalités de fonctionnement du système démocratique en France, qui ne peut pas se satisfaire aujourd'hui d'une démocratie représentative. Donc voilà rapidement quelques enjeux, plus un enjeu évidemment important qui est celui de la préservation des écosystèmes, c'est-à-dire que les métropoles qui sont, bon, comme toutes les villes, des productions un peu artificielles, elles sont néanmoins inscrites dans un environnement pas le même quand on est à Marseille ou à Lille, bien sûr, mais où cette nécessité-là de préserver la biodiversité, de préserver les écosystèmes, est une problématique nouvelle et qui pose la question de l'urbanisation dans des termes très, très différents. On parle de ville nature, de ville verte. Enfin, on voit bien que les processus de planification sont en train d'évoluer.
Merci. Alors, vous avez souhaité porter en réalité une question à l'agenda des oui. chercheurs, un enjeu qui vous avez résumé sous une expression qui est celle de la métropole et les autres, posant en réalité l'enjeu de l'interterritorialité, la relation entre la métropole et son interland, la relation entre la métropole et les autres territoires, petites et moyennes villes, la relation à ses ruralités, mais également la relation entre le département, l'État, parfois la région, les relations également transfrontalières qui se posent à l'échelle d'une métropole en proximité de d'autres territoires sur des pays voisins étrangers. Dans ce contexte-là, comment vous auscultez cette question de la métropole et les autres? Qu'est-ce que vous entendez finalement sous cette expression et quels sont les enjeux que les chercheurs finalement y voient à travers cette expression?
Alors pourquoi on a pris effectivement ce fil rouge? C'est parce qu'en France, il y a un moment très particulier que vit la société, et on pourrait dire aussi la société politique française. C'est un moment où une thématique est sortie fortement, qui est celle de la fracture territoriale. Il y a un discours en France où on oppose, au fond, les métropoles qui gagneraient, qui concentreraient les richesses et les ressources, et qui du coup laisserait à l'abandon le reste du territoire, qui donc s'appauvrirait. Il y a donc un discours très très fort sur cette fracture territoriale, en oubliant d'ailleurs au passage que la pauvreté en France, elle est peut-être moins dans les zones rurales, dans les petites villes et les villes moyennes, qu'elle n'est au cœur des métropoles, puisque, je le redis, ce qui caractérise ces métropoles, c'est à la fois des processus de gentrification bien connus, mais c'est aussi un accroissement des inégalités, avec la question des quartiers populaires en difficulté et qui appellent effectivement des politiques publiques. Donc face à ce discours de la fracture territoriale, il y a en réponse au fond à un discours qui disqualifie les métropoles, qui seraient donc prédatrices, qui ne redistribueraient pas ni leurs richesses ni leurs ressources, mais qui les garderaient pour elles et qui videraient donc les autres territoires de leurs ressources, de leur... Il y a face à ce discours-là la volonté de montrer deux choses. D'une part, que les métropoles, elles ne sont pas hors sol. Elles sont inscrites dans un environnement. Il y a des interrelations depuis longtemps avec leur interland. Les villes, elles ont toujours travaillé, fonctionné sur ces interrelations. Et donc, c'est d'inverser, au fond, le discours de la dépendance. Il y a un premier discours de la dépendance qui serait les territoires environnants dépendent, au fond, de la bonne volonté d'une métropole à redistribuer du développement, de la richesse. On pourrait dire, on peut inverser. Les métropoles aujourd'hui, elles sont dépendantes pour leur approvisionnement. Si on prend la question de l'eau, par exemple, elles dépendent évidemment des territoires qui sont en capacité de fournir de l'eau. Quand on prend l'alimentation, elles sont dépendantes effectivement de l'agriculture et qui se trouve moins dans la ville qu'aux environs de la ville. Donc on voit bien que les métropoles, elles sont d'une certaine manière dépendantes des territoires environnants autant que les territoires environnants sont dépendants de la métropole. Et donc ce qu'on a voulu éclairer, c'est comment aujourd'hui les métropoles essaient d'organiser des contrats de réciprocité, des échanges, un dialogue avec ces territoires environnants pour, j'allais dire, organiser des formes de développement gagnant-gagnant, c'est-à-dire à la fois reconnaître ce qu'apportent les territoires environnants, mais aussi assumer leur responsabilité au fond de co-développement. Alors, je peux prendre deux exemples. Sur l'eau, par exemple, quand on prend la métropole de Lille, son approvisionnement en eau dépend d'une nappe phréatique qui est partagée par la France et la Belgique. Donc on voit bien là comment la métropole, pour avoir de l'eau de qualité, est obligée de travailler, alors là effectivement, avec des territoires belges, avec des territoires environnants, et comment elle a une responsabilité vis-à-vis de l'aval, dans la mesure où elle rejette évidemment de l'eau et qu'il faut que cette eau soit consommable et propre. Donc on voit bien là les logiques d'interdépendance. De la même manière, sur l'alimentation, se développe aujourd'hui des programmes d'alimentation où on voit des métropoles travailler avec leur environnement pour développer de véritables filières, c'est-à-dire assurer un débouché, par exemple, à des éleveurs qui ont leur élevage à proximité de Toulouse ou de Dijon. Donc la métropole assure un débouché, par exemple, en faisant en sorte que dans toutes les cantines ou dans toute la restauration publique, on utilise ces produits-là. Et on voit bien là ces logiques, effectivement, de partenariat, de réciprocité. Donc ce qu'on observe, c'est la manière dont s'expérimentent ces dialogues-là, dont s'expérimente cette réciprocité, cet échange, avec deux interrogations. Est-ce qu'il s'agit simplement d'un discours, au fond, politique, de communication, qui vise à montrer que les métropoles seraient vertueuses et s'intéresseraient à leur environnement, ou est-ce qu'il y a du contenu réel? Et ça pose une dernière question que je pense ma voisine reprendra, c'est la question du leadership des métropoles, c'est-à-dire dans ces dialogues interterritoriaux, est-ce que les métropoles en France aujourd'hui, elles ont l'initiative, ou est-ce que ces politiques au fond d'aménagement du territoire, qui étaient de la responsabilité de l'État dans les années 60, qui aujourd'hui devient une responsabilité de la région en France, est-ce que les métropoles, face au pouvoir régional, ont cette capacité d'aménager au fond le territoire? Voilà quelques-unes des questions que nous travaillons.
Alors, vous venez d'évoquer le cas de Lille notamment. Il y a un autre territoire qui est ausculté, examiné à l'échelle nationale, c'est celui de la métropole de Rouen-Normandie. Xavier Desjardins, vous êtes le responsable scientifique de la recherche menée sur la métropole. Vous êtes professeur à Sorbonne Université en France, mais également enseignant-chercheur à Sorbonne Université d'Abu Dhabi. Dans ce contexte-là, comment vous réagissez par rapport aux propos que vient de tenir Marie-Christine Jaillet? Dit autrement, quels sont les autres territoires avec lesquels vous examinez sur la métropole de Rouen, et comment vous portez quels sont les principaux résultats de recherche que vous avez observés, examinés sur la métropole de Rouen-Normandie? On est encore une fois sur le territoire normand en France.
Oui, merci. Effectivement, les métropoles françaises, qui sont des villes moyennes, il y a une sorte d'usage des mots un peu surprenant dans notre administration, elles ont des trajectoires extrêmement diverses. Et ce qui se passe qu'en France, le discours sur la métropole qui est celle qui concentre les emplois, les richesses, elle se base sur quelque chose qui est tout à fait réel, c'est que depuis la crise économique de 2008, la trajectoire économique du territoire national est quand même extrêmement favorable aux métropoles. Le stock d'emplois nouveaux depuis 2008, la moitié de ce stock d'emplois nouveaux est dans les 10 plus grandes villes françaises, et la moitié de ces emplois nouveaux des plus grandes villes françaises sont dans la ville centre, Toulouse, Grenoble, Bordeaux, etc. Donc on a effectivement un mouvement de concentration de la dynamique de création d'emplois dans les métropoles, parce que ce sont dans les métropoles que sont situés en fait les secteurs les plus dynamiques en création d'emplois, dans le domaine de la finance, dans le domaine des médias, dans le domaine de la culture, etc. Donc il y a quand même un mouvement assez marqué de réorganisation économique qui a un fort impact sur le territoire, que vous connaissez aussi certainement dans vos métropoles africaines. Et ce qui est aussi tout à fait intéressant, c'est que ça concerne très différemment les métropoles les unes des autres. Et Rouen, c'est une métropole industrielle. C'est une métropole qui, elle, en fait, connaît une réorganisation économique massive, parce que c'est une ville qui doit son développement à l'industrie de l'automobile, de la pétrochimie. Et c'est des activités qui, en Europe de l'Ouest en général, sont plutôt dans des dynamiques, non pas de déclin, mais de baisse d'emploi, parce que souvent, il y a des améliorations très fortes de productivité, ce qui fait qu'il y a moins de travailleurs, et parfois, il y a même aussi de la délocalisation, etc. Donc, on est dans une situation complètement, très, très particulière. Et dans ce cadre-là, se pose la question des coopérations avec les autres. Et ça, c'est une question aussi, je pense, que peut-être mes deux voisins sur lesquels ils pourront revenir. C'est qu'on dit beaucoup... En fait, aujourd'hui, comme Marie-Christine Jaillet l'a souligné, que le dialogue entre... on espère des coopérations horizontales. En fait, c'est comme ça, en France, on dit, les métropoles doivent parler aux voisines, etc. Quand on regarde ce qui s'est passé à Rouen, par exemple, effectivement, à Rouen, il y a énormément de dialogues avec les autres collectivités. Et ces autres collectivités, c'est le long de la Seine, puisqu'il y a Paris, qui est à 100 km de Rouen, qui est évidemment 10 millions d'habitants, Rouen, et puis le port sur la mer, qui est celui du Havre, à une cinquantaine de kilomètres de Rouen, vers l'ouest. Et en fait, quand on décortique, quel est l'initiateur de la coopération horizontale ? C'est quand même grandement l'État. C'est-à-dire que là, il y a quand même une vraie question, c'est de savoir la capacité des pouvoirs locaux eux-mêmes de mettre à leur agenda politique la question de la négociation avec les voisins. Aujourd'hui, ils le font, mais l'impulsion, en fait, pourquoi ils discutent ensemble ? Si on est un peu cynique, c'est parce qu'il y a un projet d'une voie ferrée qui va relier Paris au Havre, et donc ils se mettent tout autour de la table. Et il y a un projet aussi, différents projets d'amélioration de ports qui appartiennent à l'État d'ailleurs, et qu'ils sont chargés de regarder. Donc il y a vraiment cette question qui est celle du leadership que tu posais, Marie-Christine, c'est-à-dire finalement aussi de cette maturité de la décentralisation qui ferait que les collectivités locales soient par elles-mêmes en capacité de créer leur dialogue horizontal, ce qui est encore en germe, plus qu'une réalité dans les territoires français, ce qu'on peut regarder à Rouen.
Alors ce sont des travaux en réalité que vous pouvez découvrir dans un petit opus qui s'appelle La métropole performative sur Rouen-Normandie métropole, le site internet, mais également sur le site www.popsu.archi.fr. Ce sont également des travaux que vous avez développés dans le cadre d'un autre ouvrage publié aux éditions du Plan Urbanisme Construction Architecture intitulé Petite ville, ville petite et moyenne et aménagement territorial, éclairage anglais, allemand et italien sur le cas français. C'est un parangonnage international et que vous aurez l'occasion de développer sur d'autres travaux. Dans le cadre de ce forum mondial, puisque nous avons une séquence qui est réservée autour de ce sujet. Je me tourne à présent sur les éclairages internationaux de cette séquence. Madame le maire de Dakar, nous, on est très heureux de vous accueillir. Finalement, en préparant cet entretien, vous nous avez dit à quel point les autres territoires étaient reliés en réalité aux enjeux environnementaux, en particulier la question de la gestion de l'eau qui était en particulier, par exemple, développée par Marie-Christine Jaillet. Vous avez aussi, je crois, d'immenses défis que vous relevez actuellement sur les enjeux de mobilité, et notamment ces nouvelles formes, et puis surtout un accroissement de la population sans précédent qui appelle une interrogation sur les formes d'habiter. À travers l'ensemble de ces priorités, quel est le sens, en fait, quels sont les leviers que vous mobilisez dans l'action publique aujourd'hui à Dakar ?
Merci, je vous remercie beaucoup. Bonjour à tout le monde. À la suite donc de ces deux experts, je voudrais parler un petit peu, faire des rappels sur le fait urbain à Dakar. Rappeler que Dakar, qui est la capitale du Sénégal depuis 1960, il y a eu des réformes administratives du système de décentralisation qui ont fait qu'à Dakar, maintenant, il y a 19 communes. Le statut de la ville donc, a changé depuis la nouvelle loi sur la décentralisation. Situé donc à la presqu'île du Cap-Vert, avec une forte incursion sur l'océan Atlantique. Sa position géographique lui offre quand même un climat agréable que tous les Européens aiment visiter. Donc Dakar occupe 82,32 km du territoire, soit 0,042%. Et seulement 15% du territoire métropolitain qu'elle compose avec les villes de Pikine, Guédiawaye et Rufisque. La population qui était de 1 326 000 habitants en 2018 a augmenté de 500 000 habitants de 2018 à 98, je veux dire, à 2018. Donc, il faut retenir aussi que la ville de Dakar est une ville totalement urbanisée qui représente le moteur de l'économie nationale et même régionale. Il existe des fortes disparités économiques et sociales entre l'agglomération dakaroise et les régions de l'intérieur du pays. Le défaut d'une planification intégrée a conduit à une occupation spatiale marquée par de très fortes disparités, comme l'illustrent les statistiques. La région de Dakar, donc, dans la superficie, représente moins de 2% de celle du Sénégal, concentre plus de 25% de la population et contribue à 55% du PIB et près de 87% de la fiscalité nationale. Alors, l'agglomération dakaroise est caractérisée par une concentration des activités commerciales, administratives et institutionnelles au niveau des zones du plateau de Fan et le long de la voie de dégagement nord, des activités industrielles aux alentours du port autonome et le long du littoral sud. Le reste du territoire est à domaine résidentiel. Ceci rend déséquilibré les déplacements qui s'effectuent pour la plupart du nord au sud de la péninsule, selon les horaires de travail journaliers. Alors, la croissance démographique de la ville de Dakar, observée ces dernières décennies, continue d'exercer une pression extraordinaire sur son espace. Au-delà des défis relatifs à la gestion des déchets solides et liquides, à l'occupation des zones inondables, à la pollution des plages, Dakar a atteint un niveau de pollution de l'air alarmant, selon le rapport de l'OMS en 2018. Concernant l'approvisionnement en eau de la ville de Dakar, elle mobilise à elle seule 70% de la production d'eau potable produite par la société de distribution. La croissance démographique combinée aux activités économiques et aux nouveaux aménagements urbains et périurbains justifie l'anticipation sur l'évolution de la demande. Les études réalisées lors du dernier recensement montrent que si rien n'est fait, le déficit de pointe de production pour la région de Dakar, notamment et les localités traversées par la conduite du lac de Guerre s'accroîtra pour atteindre 202 017 m³ par jour en 2025 et 390 888 m³ par jour en 2035. Le lac de Guerre est situé dans le haut delta du fleuve Sénégal, à 300 km de Dakar. De ce plan d'eau de 170 km² situé au nord-ouest du pays, provient la ressource brute traitée par deux usines. Il faut souligner que Dakar n'a pas de compétences dans ce secteur de l'approvisionnement en eau potable. Néanmoins, il représente une thématique que nous suivons de près à cause de son caractère vital pour les populations et les activités. Sur la mobilité urbaine et les nouvelles centralités, la mobilité constitue un enjeu majeur pour les pouvoirs publics au Sénégal, et plus particulièrement au sein de l'agglomération de Dakar. L'urbanisation accélérée a coïncidé avec une dégradation de l'offre de transport, se caractérisant par la vétusté du parc de véhicules et du réseau routier, entraînant des coûts de transport de plus en plus élevés. Environ plus d'un cinquième du revenu du Dakarois moyen est absorbé par les besoins en transport. À cela s'ajoute le manque de contrôle de la tarification appliquée réellement. Ainsi, malgré les efforts faits sur l'offre et la demande depuis la réforme du secteur en 1997, les difficultés liées au déplacement urbain restent toujours entières. Transversale, la question de la mobilité est largement liée au taux d'accroissement de la population urbaine et à l'attractivité économique qui détermine les motifs de déplacement. La ville de Dakar concentre environ 52% des entités génératrices de déplacement. Bien que le taux de motorisation reste très variable d'un quartier à un autre, le nombre d'usagers ne cesse de croître. La voiture individuelle devient de plus en plus accessible. Les voiries secondaires et tertiaires ne sont pas en état d'accueillir tous ces flux imposés par cette croissance. Par ailleurs, de grands projets d'infrastructure commencent à déjà impacté la mobilité à Dakar, telle que l'autoroute à péage mise en service depuis 5 ans et la réhabilitation de la voie urbaine entamée par la ville de Dakar. En outre, D'autres projets seront également à prendre en compte, dont le projet de création d'une nouvelle ville à Diamniadio et Lac Rose, qui sont bien en avance. Le démarrage des activités de l'aéroport international Blaise Diagne, situé à 48 km de Dakar, l'extension de la VDN au nord, le projet de délocalisation des activités lourdes du port autonome de Dakar, le train express régional, le projet de bus rapide transfert et la réhabilitation des grands ouvrages routiers comme les échangeurs, les autoponts. Enfin, la ville de Dakar est dans la dynamique de se positionner comme un maître d'ouvrage incontournable dans la prospective urbaine et la revalorisation du patrimoine matériel et immatériel. Nous voulons convaincre par l'action. À travers donc un diagnostic des interventions et investissements totalement déconnectés sur une zone charnière du plateau, le centre-ville de Dakar, nous tentons de démontrer aux parties prenantes à combien s'élève le coût du manque de cohérence dans les actions des uns et des autres. Et c'est la raison pour laquelle, le 30 janvier 2020, nous avons co-organisé avec le port autonome de Dakar, qui veut s'ouvrir sur la ville, une table ronde des maîtres d'ouvrage et autres acteurs urbains sur ce projet. Les résultats sont probants et chaque institution représentée a proposé l'idée de mettre en place un organe de coordination urbaine pour éviter les compétitions inutiles dans la zone cible. Voilà donc en quelques mots ce que je voulais dire sur Dakar.
Merci, merci beaucoup. Il est incroyable de voir les liens qu'on peut établir, notamment avec des métropoles comme Lille, comme Lyon d'ailleurs, sur le territoire que, et les notions que vous avancez. Autre territoire qu'on souhaitait mettre en regard sur à l'occasion de ce temps d'échange et de cette table ronde, c'est le cas du Burkina Faso avec la ville de Ouaga. Édouard Bouda, vous êtes le directeur de l'agence de développement économique urbain à Ouaga. Est-ce que cette notion de la métropole et les autres résonne? Vous m'avez évoqué en préparant cette rencontre une notion, celle de l'agriculture urbaine. J'avais été frappé sur un autre territoire voisin du continent africain qu'à Bamako, il y avait encore 20 000 éleveurs au sein de la métropole et 3 000 maraîchers. On le rédigeait en particulier dans le cadre d'un article scientifique dans l'ouvrage Jardin dans la ville, ville en jardin, aux éditions Parenthèses en France. Sur le contexte ici à Ouaga, la question de l'agriculture est-elle une question? Je sais que vous avez entre autres examiné ce sujet. Je vous laisse et je vous cède la parole peut-être pour revenir justement sur cette notion.
Merci. Avant donc de revenir à l'agriculture urbaine, je voulais présenter Ouagadougou en quelques mots. La ville de Ouagadougou, c'est une ville capitale, donc avec une population de 3 millions d'habitants, une densité brute de 43 habitants par hectare, un taux d'accroissement de 7,6% l'an, soit l'équivalent de 150 000 nouveaux habitants par an. Ouagadougou, c'est également une capitale sahélienne, contrairement donc à Dakar, et qui est située au cœur du Burkina Faso et dont la population a augmenté de 1960 à maintenant, de 60 000 à 3 millions, donc une évolution de 50 fois. Pendant que l'aire géographique elle-même a accru de 8 fois. Alors, il y a plusieurs enjeux donc dans l'urbanisation de Ouagadougou. C'est surtout l'extension spatiale, telle que je le disais tout à l'heure, la croissance démographique également, et la question de la mobilité urbaine dont parlait tout à l'heure Madame la maire de Dakar, l'accès aux services sociaux de base et la gestion des déchets et de l'assainissement, la préservation de l'environnement et des ressources naturelles, les quartiers, les logements précaires, et j'en passe. Alors, pour cela, la ville travaille sur plusieurs documents, notamment le schéma d'aménagement, directeur d'aménagement du Grand Ouaga, le plan d'occupation des sols, le schéma directeur de gestion des déchets solides, le schéma directeur de drainage des eaux pluviales, le plan de mobilité urbaine soutenable et le plan de circulation, le plan de modernisation du système donc collecte de la taxe municipale. Il faut dire que, au regard de tous ces enjeux, Ouagadougou n'avait pas de choix que d'aller dans une logique de métropole avec les communes voisines. Il y en a 7 exactement. Et donc, en septembre 2019, il a été convoqué un séminaire international pour réfléchir sur la thématique. Et c'est ainsi qu'avec l'ONU Habitat et beaucoup de métropoles françaises, le diagnostic a été posé et l'ensemble des communes ont décidé donc d'aller en métropole, donc dans une logique de promouvoir la coopération entre communes voisines et pour la réalisation de la communauté urbaine du Grand Ouaga. Et donc, le Grand Ouaga aura désormais 4 millions d'habitants, soit 15% de la population burkinabé. Et le Grand Ouaga, c'est également 62% du PIB du Burkina Faso. Et cette vision métropolitaine va favoriser donc, la mutualisation des forces et la transformation des faiblesses en opportunités. Et elle permettra également d'endiguer l'accaparement des terres dû à la spéculation foncière qui se développe sous le couvert de la promotion immobilière. Et une synergie d'action entre l'État et les communes parties dans la mise en œuvre des projets structurants sur le territoire. Alors, vous avez bien fait de parler de l'agriculture urbaine. Donc, aujourd'hui, la question qui se pose, c'est comment on continue donc de promouvoir cette agriculture urbaine. Je rappelle que Ouagadougou, c'est également cette capitale-là où on produit de la fraise contre toute attente. Et donc, et beaucoup de cultures maraîchères et ces terres qui sont de plus en plus accaparées par les promoteurs immobiliers posent le problème aujourd'hui de la préservation de l'agriculture urbaine. La maîtrise donc de cette urbanisation va certainement permettre de développer le potentiel dans les communes, tout en réfléchissant davantage sur le problème crucial du développement de l'agriculture urbaine qui aujourd'hui a été en tout cas placé au cœur des politiques communales, comme le témoigne ce projet qu'on a dans le reverdissement de la ceinture verte. Avec l'accompagnement de plusieurs partenaires, notamment des ONG. Et il y a une ONG italienne, Manitese, et puis une ONG aussi qui s'appelle Agra, qui accompagne aujourd'hui la commune pour l'aménagement de plus de 1000 hectares dans la ceinture verte. Et déjà, la phase pilote a permis d'employer une centaine de femmes qui exploitent justement cette terre-là à des fins d'agriculture urbaine. Alors, j'avais une carte du Grand Ouaga, mais je pense qu'on ne pourra pas la voir au regard du temps qui reste. Et donc, s'il y a des questions, je me prête donc à les répondre. Je vous remercie.
Merci beaucoup. Alors, ces comparaisons internationales entre la France et et beaucoup d'autres pays, il serait très intéressant à pouvoir poursuivre. En réalité, ce sera l'objet d'un temps d'échange cet après-midi sur le pavillon France, à travers le lancement notamment de nos réflexions sur le programme Pop Su Monde. Mais à présent, je me tourne vers Marie-Christine Jaillet, peut-être pour une lecture croisée justement entre le Nord et le Sud. Quelles sont peut-être les spécificités de chacun des territoires? On l'a vu, il y a des croissances démographiques très différentes et en même temps des enjeux tels que par exemple l'agriculture où on voit bien qu'il y a des échos relativement étroits sur la gestion de l'eau, sur les stratégies de mobilité qui se dessinent avec des destins comparables et puis d'autres qui nous différencient.
Enfin, moi ce que j'ai entendu c'est effectivement des contextes a priori très très différents mais des questions absolument communes tout à fait. Alors on l'a vu thématiquement, la question de la gestion des déchets, toutes les métropoles sont confrontées à cette question-là, donc qui pose aussi la question du recyclage, de la manière dont une métropole peut effectivement ne pas utiliser ces déchets et les recycler. Donc c'est les approches en termes de métabolisme urbain qu'on voit se développer. Sur la question de l'eau, évidemment, j'ai bien entendu, j'avais dit pour notre part, effectivement, que sur la métropole de Lille, ces questions-là sont posées avec des questions de conflit d'usage qui étaient sous-jacents aussi à ce que vous disiez, c'est-à-dire les métropoles captent effectivement la ressource en eau, éventuellement au risque d'autres usages. Donc comment là éviter ces conflits d'usage? Sur l'agriculture urbaine et périurbaine, ce que vous dites sur Ouagadougou, on le voit en France. On voit comment aujourd'hui en France, les métropoles essaient de réinternaliser aussi de l'agriculture urbaine et comment elles essaient effectivement en périphérie, dans les zones périurbaines, de maintenir l'agriculture et sur des pressions qui sont un peu identiques à ce que vous disiez, c'est-à-dire la pression de la croissance démographique et le risque que la terre soit consommée pour développer des quartiers d'habitation. Donc il me semble qu'on a des questions communes. On a aussi des questions communes en termes de gouvernance. Enfin, il me semble que derrière ce que vous disiez, il y a aussi la question du pouvoir de la métropole, c'est-à-dire de sa capacité à assurer au fond le leadership, à prendre l'initiative de discuter avec les partenaires. Et on voit bien que dans les initiatives qui sont prises, il y a bien la volonté de réunir autour de la table l'ensemble des parties prenantes qui interviennent effectivement sur un territoire. Vous parliez du port de Dakar à Strasbourg. La question du rapport effectivement entre le pouvoir local de la métropole et puis les autorités du port autonome de Strasbourg se pose dans des termes un peu différents. Et je crois que derrière, il y a cette question-là. Est-ce qu'aujourd'hui, dans des contextes politiques où on a affaire évidemment aussi avec l'État et avec d'autres pouvoirs, quelle est la capacité, l'autonomie des métropoles, c'est-à-dire comment les métropoles sont dotées d'une capacité d'action qui leur permettent effectivement d'organiser cette table qui réunit l'ensemble des acteurs. C'est une question forte en France, mais on voit bien que c'est une question qu'on peut partager aussi dans des contextes extrêmement différents. On est là sur des questions de gouvernance urbaine et d'autonomie aussi donnée aux métropoles, quel que soit le contexte politique dans lequel elles se trouvent.
Il me revient la charge de vous remercier infiniment pour ce premier temps d'échange et qu'on aura l'occasion de poursuivre sur d'autres ateliers sur le pavillon France. Je remercie donc l'ensemble des intervenants et je propose qu'on puisse vous applaudir. Plusieurs informations encore sont disponibles sur ce programme. Tout d'abord, vous pouvez découvrir quelques informations donc sur la plaquette de présentation du programme qui vous est communiquée en salle, sur la plateforme d'observation des projets et des stratégies urbaines. Ici, vous avez une plaquette en langue française, mais vous pouvez retrouver également l'ensemble de ces données en français disponibles. Une chaîne YouTube est également disponible, où vous retrouverez en podcast d'ailleurs cette séquence sur donc la chaîne Puka Popsu et puis une collection d'ouvrages que nous avons initiés, les conférences Popsu, vous les avez en français et en anglais disponibles sur le pavillon France, ainsi que l'ensemble des cahiers Popsu que nous allons publier prochainement aux éditions Autrement et qui seront disponibles dans les prochaines semaines. Et puis un point de rendez-vous en France à l'Assemblée nationale en juin prochain, où nous aurons l'occasion de faire un grand colloque autour des métropoles en transition. Merci à toutes et à tous.